voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Donc voilà, pour réintroduire l'émission, donc l'émission s'appelle La Voix du Kaizen. Donc La Voix du Kaizen, sur cette troisième saison, on parle de l'éducation au sens large. Donc dans le cadre de cette série d'interviews et de rencontres, j'ai pu voir des profs qui ont fait le choix de quitter l'éducation nationale pour créer leur propre école. J'ai rencontré des réalisateurs qui ont fait des films sur le thème de l'éducation, des parents d'élèves. On a parlé aussi de neurosciences, on a parlé de différentes thématiques avec les intervenants que j'ai pu rencontrer. Et là, je me retrouve à l'école, alors si j'ai des bêtises, Caminando, c'est ça, qui appartient à l'école de la nature et des savoirs. Bon, on va essayer de comprendre déjà le lien entre Caminando et l'ENS, donc l'école de la nature et des savoirs. Et je suis en présence de Muriel, qui est là avec moi, donc qui va peut-être commencer par simplement introduire l'école, le lieu et l'école de la nature et des savoirs.
Alors, on est dans le Haut-Diwa et l'association École de la Nature et des Savoirs a décidé, il y a déjà 5 ans, de porter une école primaire, une petite école primaire qui est laïque, hors contrat avec l'État. Et donc, cette école primaire, elle est implantée dans un lieu assez magique qui s'appelle le Château de Saint-Féréol, où l'association École pratique de la Nature et des Savoirs a aussi ses bureaux. Donc on est ici dans un château qui date un peu avant le 15e siècle. Une aile du château et un grand espace qui permet d'avoir 2 salles de classe pour l'école primaire. Et surtout un grand jardin. Et comme vous avez pu le constater, pour venir à Caminando, il n'y a pas de goudron, il y a une piste. Et la cour de l'école, c'est que de l'herbe. Dans cette cour, on va trouver aussi une mare qui a été réhabilitée l'année dernière. Un potager collectif, une serre où les enfants peuvent cultiver en parcelles.
C'est vrai que l'auditeur n'a pas cette dimension visuelle, mais si on devait décrire ce qu'on voit autour de nous, bah effectivement, juste là derrière, la mare, des arbres, des fruitiers, des buttes là-bas, un jardin, une serre, un magnifique bâtiment en pierre que tu appelles le château, des enfants là-bas qui sont en train de manger à l'extérieur, qui sont en train de jouer dans cette cour pleine d'herbes et pleine d'arbres. Ici, la nature au cœur de l'éducation.
À la baseline de Caminando, je me souviens des premiers dossiers de cette école qui était un rêve, notre école idéale. Et la baseline, c'était la nature pour école.
Mais donc c'est vraiment l'incarnation d'un rêve. Tu disais cette école, on l'a rêvé. Donc c'était une idée que vous avez eue à plusieurs et ça y est, maintenant elle existe. Alors quel était ce rêve et qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette école ?
Alors en fait, quand je parle de rêve, je pense que c'est plus une aspiration. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on arrive à rassembler nos différentes aspirations et on se dit, ça serait trop bien si on pouvait le faire. Et c'est là que je parle de rêve. Le départ de Caminando, c'est en fait 5h du matin, une nuit, où c'est une fulgurance et ça paraît évident. De se dire l'école dont on rêve pour nos enfants, pour demain, finalement, il faut se retrousser les manches, puis il faut la faire. Donc en fait, voilà, c'est 5h du matin, on est réveillé, on attend que son conjoint se lève et on lui dit, mais tu sais, il faut que je te partage cette idée. La naissance à 5h du matin de Caminando, sans lieu, sans rien, sans équipe. Mais par contre, moi, je travaillais déjà. J'ai développé l'école pratique de la nature et des savoirs. Donc, je travaillais au bureau, j'étais chargée d'administration. J'ai aidé à développer cette association. Et l'idée qui m'est venue, c'est qu'en fait, cette association qui travaille, qui a pour vocation de remettre du lien entre l'homme et la nature, en tout cas travailler sur le lien, ça faisait suite, enfin voilà, ça faisait sens même. Donc en fait, j'ai proposé à l'équipe avec laquelle je travaillais de dire, ben voilà, il va falloir penser à me remplacer. Parce que l'idée de l'école, nos rêves pour nos enfants, ben, on va la faire. Moi, je m'occupe de la classe. Et est-ce que vous voulez bien m'aider pour le reste ? Parce qu'une école, je pense qu'il n'y a absolument personne qui a monté une école tout seul. Et que c'est plein de personnes qui collaborent, qui coopèrent pour monter ce projet.
Mais monter une école, donc tu disais avant hors contrat. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette notion du hors contrat ?
Mais en fait, c'est particulier à notre pays. C'est-à-dire que si on va en Finlande, en Hollande, au Canada... que la pédagogie d'une école soit Montessori, Freinet, Steiner, il n'y a pas cette séparation. du public et du privé. En France, on a un modèle, l'école publique. Et donc ça, c'est l'éducation nationale. Mais il commence à y avoir plein de pédagogies différentes qui entrent dans l'institution. Mais il y a, à partir du moment où il y a une autre école avec vraiment une pédagogie qui n'est pas celle de l'institution, on fait cette différence du public et du privé. Et donc, une école sous contrat avec l'État, ça peut être une école, souvent ce sont des écoles confessionnelles, une grande partie, ou sinon... Il faut que cette école, en fait, fasse preuve, qu'elle fasse les programmes, qu'elle suive, en tout cas, les socles, les paliers d'apprentissage de l'éducation nationale. Et il faut attendre 5 ans pour passer sous contrat avec l'État. Donc après, une école privée sous contrat, c'est une école, en fait, qui est aidée par l'État. Comment ? C'est d'un point de vue financier, c'est-à-dire que c'est un salaire d'un professeur des écoles ou d'une enseignante qui est aidée par l'État.
Et le modèle ici ?
Le modèle ici, ça fait 4 ans que l'école est ouverte, donc hors contrat. On espère, une fois qu'on aura fait nos 5 années, on est inspecté ici à Caminando tous les ans. Donc on est en lien avec l'inspection académique et on espère qu'un jour cette école elle se passera sous contrat. Parce que ça voudrait dire que la nature pour les enfants, la nature pour l'école primaire rentre dans l'institution. Symboliquement, je trouve ça génial. Donc on a carrément envie, ouais.
Qu'est-ce qui va différencier Caminando d'une école publique ?
Qu'est-ce qui différencie ? Je pense que c'est déjà l'environnement. C'est déjà le territoire même, j'ai envie de dire. C'est le territoire, c'est l'environnement. C'est une école où les parents accompagnent les enfants. C'est-à-dire que notre modèle d'école, il est encore très fragile. Nous sommes quelques-uns à accueillir les enfants le matin et on n'a pas de structure derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas une mairie qui peut, comme on voit dans les petits villages, on est ici en zone rurale. Ça arrive souvent quand il y a des soucis avec les enseignants, il y a une secrétaire de mairie qui vient apporter les clés pour ouvrir l'école, etc. Il y a des femmes de ménage, il y a des ATSEM, voilà, une grosse équipe dans une école. Ici, les parents accompagnent l'enfant dans la classe et donc il y a un lien plus proche avec la famille. Ce qui différencie, du coup, de manière assez forte avec peut-être ce qu'on peut voir dans l'école publique, c'est que les parents, en fait, vont être en coéducation ou en tout cas accompagnent le projet d'école. On travaille dans les mêmes perspectives. Dans cette école, par exemple, il n'y a pas de devoir. On imagine mal un parent qui dise le soir « Alors, tes devoirs, etc. » Non, on essaye d'être la famille, le corps enseignant et les enfants dans les mêmes perspectives éducatives. Donc, ça veut dire l'implication des parents. On n'a pas de gros moyens, donc on ne peut pas louer un bus quand on veut se déplacer. Donc, les parents participent au covoiturage. Là, nous nous rencontrons sur un temps de pause méridienne du midi. Ce sont les parents qui préparent à manger dans une cantine qui fonctionne en système don contre don. Et les parents, voilà, vont rester là jusqu'à 14h tout à l'heure. Donc il y a une implication des familles et des parents plus forte qu'ailleurs, même si Caminando n'est pas une école parentale. C'est-à-dire que tout le pédagogique est laissé en fait à la structure. C'est la responsabilité de l'équipe pédagogique, mais on est très proche, oui, des parents. Après, je pense que la grande différence, c'est qu'on va travailler davantage des notions comme le vivre ensemble, même si le terme est aujourd'hui un peu galvaudé. C'est-à-dire qu'on va se demander tous les matins, est-ce qu'on va bien ? Comment ça s'est passé entre le moment où j'ai ouvert un œil et que j'arrive à l'école ? On va écouter ce qu'on a à l'intérieur. On va parler de nos émotions. Il y a peu encore aujourd'hui de manuels scolaires qui évoquent les émotions. Moi, j'ai aujourd'hui 48 ans et je pense qu'il y a plein de générations qui n'ont jamais travaillé ça à l'école primaire. Donc, on va faire plein de choses, j'ai envie de dire, dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est une réflexion de se dire tout ce qu'on découvre à partir d'un certain âge entre adultes. Et des fois, on se dit, putain, si j'avais découvert ça plus tôt, si je le savais, en formation, en stage, en séminaire. Aujourd'hui, si on équipait un peu mieux nos enfants pour demain. Dans le sens où, pendant de longues années, le rôle de l'école était celui de l'information. Aujourd'hui, n'importe quel enfant peut aller sur Google et accéder à la formation qu'il souhaite. Il y a pour nous ici un vrai changement dans l'accompagnement de l'éducation des enfants. Et du coup, on va aller dans ce. On va aller explorer ça. Donc, ça peut être les émotions, ça peut être la gouvernance partagée, comment s'organiser ensemble. Et on va travailler quelque chose qui est très différent pour moi de l'éducation dans une école publique, l'instruction, pardon, dans une école publique. C'est qu'ici, on va répondre à la question comment passe-t-on une bonne journée ensemble ? Ou comment s'organise-t-on pour passer une semaine ensemble ? De quoi on a besoin ? Qu'est-ce qu'on aimerait faire et comment ça s'organise ?
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, à Caminando, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes et il n'y a pas d'évaluation. Non, au sens, de ce qu'on a tous dans la tête, du contrôle, de la dictée. Alors, il y a une première raison, c'est qu'il y a un fort taux d'encadrement adulte. C'est-à-dire, quand vous travaillez avec 3-4 CP, vous voyez vite ceux qui ont besoin de refaire, de retravailler de la graphie ou un enfant qui bute sur des phonèmes. Donc, en fait, l'évaluation, vous l'avez, quoi. Vous êtes en lien avec les enfants. Et vous pouvez retranscrire, mais ce n'est pas les enfants qui vont faire une évaluation. En fait, c'est l'encadrant qui se dit, tiens, là, il faut répéter, là, il faut renforcer. Là, ah, là, super, wow, trop bien, on est étonné. Donc, ça, c'est notre part à nous d'évaluation. On peut faire de temps en temps des auto-évaluations. C'est-à-dire, on répond à la question, est-ce que je suis capable de. Donc voilà, là c'est quelque chose d'un peu plus formel. Et ce qu'on pratique ici, ça va être plus des restitutions. C'est-à-dire d'être capable de restituer à la classe une activité qu'on a menée, une expérience. Et puis du coup, au moment de restituer, c'est compliqué quand on est enfant. C'est-à-dire qu'il faut être capable de reformaliser ce qu'on a découvert, etc. Ou d'en faire un exposé, ou d'en faire une reconstitution. Et du coup, on voit... on se pose la question, qu'est-ce qu'on a appris en faisant ça ? En menant cette expérience, qu'est-ce que j'ai découvert ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Donc tout ça, finalement, pour le lien avec la famille, avec l'enfant, on est en lien, j'ai envie de dire, au vivant, au plus près du vivant avec lui, et on échange beaucoup. Et pour le lien avec la famille, on constitue à la fin de l'année un texte qui donne en fait le récit de l'enfant, mais sur sa globalité.
J'en reviens à cette notion de nature qui est omniprésente ici. Comment est-ce que tu l'utilises dans les méthodes pédagogiques du quotidien ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Quel va être le lien entre ce qui se passe en classe et l'extérieur ?
En fait, on réfléchit sur ce qu'est la nature. Et en réfléchissant sur la nature, on amène en fait les enfants à prendre conscience que la nature, ce n'est pas juste ce qu'on a l'habitude d'appeler l'environnement, qu'on appelle dans les écoles, même aujourd'hui, l'éducation à l'environnement. Parce que ça veut dire qu'on segmente la nature et l'humain. Nous, ce qu'on travaille ici, c'est que nous sommes nature. Donc si nous, on est nature, ça veut dire qu'on peut observer comment on fonctionne. Bon, on s'inspire de la nature pour fonctionner. Donc concrètement, ça va être, dans la nature, il y a plein d'alliances de plantes. Et ça, on va le décliner en coopération, en pédagogie. Une des lois aussi du vivant, c'est le don. Aujourd'hui, le soleil... Là, au-dessus de nous là. On ne paye pas encore pour avoir la lumière et le soleil, donc ils donnent. Nous, on réfléchit à qu'est-ce qu'on se fait comme don, comme cadeau, un don pour soi, un don pour les autres. Qu'est-ce que j'offre aussi à la nature, à l'environnement? C'est l'idée de prendre soin d'eux, et on peut décliner comme ça comment ça fonctionne dans la nature et s'en inspirer pour la classe. Mais alors on nage dans le luxe, quoi, parce que de toute façon tout ce qu'on a autour de nous, on ne peut pas l'acheter. La personne qui peut acheter la nature, enfin ce qu'on a ici, le plateau du Vercors, quand vous sortez par le porche du château, personne ne peut acheter le plateau du Vercors, quoi. Donc oui, c'est un privilège, c'est du luxe. On essaye, on y réfléchit. Et ce qui me paraît important, c'est c'est comme ça sur la planète, hein, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens, c'est le luxe financier, d'autres c'est le luxe dans la famille, d'autres c'est... Non, on n'est pas tous égaux, loin de là. Mais par contre, ce qui me paraît important, c'est pas de conserver l'entre-nous, c'est-à-dire de garder une ouverture sur comment ça peut être ailleurs et comment ça fonctionne pour les autres. Et petit à petit, dans le rôle de chacun un jour, d'être citoyen, c'est peut-être ça, quoi. C'est par porosité, par diffusion. De s'intéresser, de dire à celui qui n'est pas content parce qu'il n'a pas le dernier smartphone, iPhone, regarde, il y a un truc génial qu'on peut faire, c'est aller passer la nuit à la Belle Étoile, et ça coûte rien. Et puis, tu ne l'as pas sur ton écran, quoi.
Hier, on parlait de cette question qui est le titre du film « Quels enfants laisserons-nous à la planète ?» Quelle est ta vision des enfants que tu aimerais laisser, toi, à la planète ? Comment bien préparer un enfant ? Et quel serait l'enfant idéal qu'on pourrait laisser à la planète ?
Alors, ce serait un enfant qui serait lui-même, déjà. Qui serait bien dans ses bottes, qui aurait confiance. Confiance en lui. Et puis, je pense que ce serait un enfant qui serait capable, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, de lui dire comment tu vas, comment ça va pour toi. Ça serait forcément un enfant en lien, ça serait un enfant relié, donc à toi parce qu'il va bien, mais aussi aux autres et à la nature, qu'aurait une conscience de qu'on a tout en fait dans la nature. J'ai ça en tête et puis j'ai autre chose qui touche plus pour moi le domaine de l'instruction. C'est-à-dire qu'on aurait des enfants avec un bouquin à la main. Là, je rêve grave. Je me rends compte de ça de plus en plus et à quel point il n'y a rien à faire, quoi. C'est des gens, des enfants curieux, des enfants avides de savoir, qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne, etc. Ça passe par l'instruction. Donc, c'est des enfants qui ont eu des parents qui les ont entraînés dans cette voie, qui les ont accompagnés.
La curiosité, tu dis qu'elle passe par l'instruction, c'est pas quelque chose qu'on a tous, enfants et même adultes encore, cette curiosité, non ?
Persuadée. Non. Non, je pense que c'est quelque chose où si on raconte que le monde est vain, que de toute façon, si on a un jour ce qu'on voit un peu de temps en temps, quoi, vous avez fait l'expérience de descendre un escalator récemment sur un quai de gare à Valence TGV, il y a personne qui se parle, on voit que des coups qui sont baissés sur des écrans. Donc pour demain, moi je souhaite pas ça, quoi. Donc je sais pas si on est très curieux dans son écran en faisant bouger ses deux pouces. C'est pas de la curiosité pour moi, c'est de la consommation d'infos. C'est pas ce que je souhaite en tout cas pour demain. L'écran, c'est pas... Donc, on développe moins le toucher. Si on va moins jouer dans le village ou ailleurs, on développe moins le goût, l'odorat, etc. Et on développe plus qu'un sens, qu'est le visuel. Donc, on le sait, mais on n'arrive pas à choisir. En tout cas, les adultes ne se positionnent pas et font pas leur job d'adulte repère. Par contre, quand c'est un outil et qu'on se dit « Tiens, mais ça serait bien telle personne, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue à l'école », on peut lui mettre un mail. Oui, on lui met un mail, c'est un outil, c'est pas dérangeant, au contraire. On en a besoin, ça ne veut pas dire qu'on vit à la chandelle, mais c'est un vrai choix des adultes.
Et les adultes, il y a aussi cette notion de formation, former les parents et former les enseignants aussi, parce qu'aujourd'hui, éduquer un enfant, c'est quelque chose qui n'est pas facile.
Ouais, il y a un gros, il y a quelque chose d'énorme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement à la parentalité, entre autres, c'est pareil pour les enseignants. Mais pour moi, c'est différent. La parentalité, je vois ça comme par rapport aux traditions, aux communautés, racines, autochtones, etc. C'est qu'on avait un lien intergénérationnel. Et on apprenait, en fait, à être parent. Ça faisait partie du job, quoi, de l'adulte ou du pré-ado et de l'ado. Et on était accompagnés. C'est, on vivait, si on parle des femmes, par exemple... il y avait un accompagnement de qu'est-ce que c'est être une mère, qu'est-ce que c'est être une femme, etc. Aujourd'hui, on ne vit plus du tout comme ça. Donc, il n'y a pas de transmission des savoirs sur la parentalité. Pour les enseignants, pour moi, c'est autre chose. C'est plus quelque chose, un modèle qui se reproduit où généralement, on enseigne ou on transmet parce qu'on a adoré l'école. Et on a tellement adoré ça qu'on n'en sort jamais. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas forcément vu ailleurs ou vu autre chose, ou même travaillé dans un autre contexte. Et du coup, qui reproduisent le modèle. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est un constat. Moi, je vois plein de choses positives qui se créent, plein de gens qui se mettent en réseau. Et je pense qu'il y a de plus en plus de formations. Franchement, aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets, il a ce qu'il faut pour y avoir accès, quoi. Après, à Caminando, c'est déjà énorme de sortir une école primaire de nulle part. Et on n'en est pas là, nous, aujourd'hui. On arrive à former des jeunes stagiaires, des services civiques, etc., à ouvrir notre école le plus souvent possible. Mais une personne pour tout faire, ça ne marche pas. être en classe et assumer d'autres fonctions comme celle de direction, etc. Donc voilà, nous, on n'a pas développé cet encadrement, cet accompagnement à la parentalité. Un jour, peut-être.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.